Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'empreinte de l'histoire. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un lieu connu des sources depuis le 1er siècle de notre ère, grâce au géographe Strabon. Un lieu qui est chanté par le périégète et poète Avienus, qui, au 4e siècle, déclare « Voici le mont Cétius qui se dresse avec son haut sommet garni de pins et qui prolonge ses racines jusqu'à Taphros ». Peut-être que certains d'entre vous ont deviné, le mont Cétius, dont parle Avienus, n'est autre que le mont Saint-Clair. C'est donc de l'île singulière que nous allons parler cette semaine. Une ville qui fut d'abord un lieu connu des pirates comme Barberousse, avant de devenir, sous la volonté de Louis XIV, un lieu répondant au nom de Sète, avec une orthographe différente que celle actuelle, puisque, en effet, Sète s'écrivait alors, et jusqu'en 1927, C-E-T-E. La ville qui s'est développée et épanouie sur et autour du Mont Saint-Clair est fondée en 1666, ce qui fait de Sète un des plus jeunes ports français. Toutefois, si l'histoire de la ville est récente, l'histoire des lieux commence bien avant et remonte, selon les découvertes archéologiques, à la Haute Antiquité. C'est ce que nous allons voir dès aujourd'hui. On peut s'étonner qu'il fallut attendre 1600 ans pour voir se construire une ville sur les pentes du Mont Saint-Clair. En réalité, une installation humaine d'importance ne va pas de soi sur le Mont Saint-Clair. En effet, le golfe du Lion, au fond duquel le port de Sète est situé, est connu des marins de l'époque comme un lieu très dangereux. Notamment quand souffle le Grec, un vent du sud-ouest qui occasionne de redoutables tempêtes. Les archives de la Chambre de commerce de Marseille nous révèlent qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, quand Sète est créé, les armateurs hollandais, marseillais ou catalans, quand il s'agissait de charger à Sète, augmentaient leurs tarifs de 30% en moyenne pour compenser le risque. Enfin, pendant longtemps et quasiment jusqu'au XXe siècle, la côte héraultaise et gardoise fut réputée malsaine en raison des moustiques qui transmettent le paludisme et à la récurrence des fièvres intestinales et de nombreuses autres épidémies. Ce qui, aujourd'hui, nous laisse songeurs quand on voit le nombre de touristes venus de toute l'Europe se masser sur les plages de la région. Voyons les débuts humains du site de Sète. Les plus anciennes découvertes faites sur le territoire sétois remontent seulement, si je puis m'exprimer ainsi, seulement à l'âge du bronze. Alors qu'à proximité, et notamment sur le massif de la Gardiole, des traces humaines remontent au moins au néolithique. Ce qui est intéressant dans ces découvertes archéologiques, c'est le lieu de leur mise à jour. En effet, je devrais dire lieu de leur mise à l'eau puisqu'elle se trouve sous 2 mètres d'eau sur le site nommé la Fangeade dans l'étang de Taux, entre la Pointe Courte et le Barreau. Cette immersion n'est pas due à un effondrement quelconque, ce qui accréditerait la fameuse légende d'une ville de Taux qui aurait été engloutie. Non, tout simplement, elle est la conséquence de l'élévation du niveau de la mer de 2 mètres depuis le néolithique. Entre cette période et la création de Massalia, vers moins 600, les rares découvertes archéologiques montrent que le site est inoccupé, ou en tout cas occupé très, très ponctuellement. Vraisemblablement pour des escales ou des naufrages. C'est en revanche avec l'occupation grecque du golfe du Lion et la création des colonies massaliotes, dont Agathae, Agde aujourd'hui, que les traces d'activité humaine se font jour dans la région. En tout cas, sur le Mont Saint-Clair. Car celui-ci, à cette époque, est un précieux repère pour les marins. Dans son ouvrage de la géographie, Strabon écrit « On appelle ce golfe le golfe massaliotique ». Ici, on parle bien sûr du golfe du Lion. Strabon poursuit dans son ouvrage en disant qu'il constitue en fait un double golfe, car dans sa courbe, le mont Sugion, le mont Saint-Clair, prolongé par l'île toute proche de Blasco, forme une saillie qui détermine deux golfes. Il est à noter dans cet écrit de Strabon, d'ailleurs confirmé plus tard par Avienus, la mention de l'île de Blasco, connue aujourd'hui sous le nom de Brescou et située sur la côte agatoise. En fait, il va falloir attendre la période gallo-romaine pour voir apparaître des occupations humaines pérennes sur le territoire sétois.
Partagez vos événements avec nos auditeurs en nous écrivant à agenda@radioalliance-plus.fr.